Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et aujourd'hui, à Micro Rebelle, on a le plaisir de démarrer une nouvelle émission. Une émission qui sera composée de plusieurs rubriques. On aura peut-être l'occasion d'en parler en fin d'enregistrement. Une émission autour de l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle l'ESS, avec en ligne de mire, en quelque sorte, le toit commun. Le toit commun, on en a quand même un peu parlé cet été. Il y a eu quelques articles dans la presse. C'est une maison qui est en train de s'ouvrir à Lens. On va vous en dire tout de suite un peu plus. Donc c'est Lucien au micro et je suis avec trois personnes que je vais laisser se présenter elles-mêmes.
Alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pierre Gralia et je fais partie de l'association AFEV. Et mon poste au sein de cet asso est d'être chargé de mission universitaire engagement de la jeunesse. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout et rien dire. Mais grosso modo, notre asso permet à des jeunes étudiants d'accompagner d'autres jeunes qui vont être en difficulté scolaire et sociale dans leur parcours. Et ma mission consiste à accompagner tous ces bénévoles qui arrivent chez nous, les accompagner personnellement dans leur parcours, leur proposer des parcours d'engagement individuel et leur permettre du coup de bien se sentir dans leur parcours d'études parce que c'est aussi ça tout l'enjeu. Certes, on a des étudiants qui accompagnent d'autres jeunes en difficulté, mais le but, c'est de pouvoir être là en aide avec eux parce qu'on sait que les étudiants aujourd'hui souffrent aussi d'une certaine précarité. Donc c'est là tout le but de la FEV, installer un cercle vertueux entre deux jeunesses. Voilà.
Laurence Zaderatsky, donc Culture et Liberté, Association d'éducation populaire. À Culture, moi je suis bénévole, j'anime notamment des ateliers de français pour que la langue devienne une amie et un temps d'échange et pas une barrière ni une frontière. Culture et Liberté, Association d'éducation populaire, donc ça veut dire qu'on a dans l'idée un petit peu folle de se dire que chacun et chacune a le pouvoir d'agir. Pour soi-même et puis pour les autres, dans l'idée de transformer la société pour une société plus juste et plus solidaire.
Et Benoît Deck, alors je suis officiellement retraité, mais je suis très engagé dans beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire sur le territoire du bassin minier. Je ne vais pas toutes les citer parce que ce serait trop long, mais à ce titre-là, je suis aussi au conseil d'administration de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire.
Eh bien Benoît, tu vas garder la parole, si tu en es d'accord. Peut-être pour nous resituer un peu, c'est quoi cette histoire de toit commun? Ça vient de où? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, le toit commun, enfin, la maison de l'économie sociale et solidaire, c'est une vieille idée. Ça fait longtemps qu'on en parle. Dans le cadre de ce qu'on appelle le COTES, le Comité Territorial d'Animation de l'ESS, du bassin minier, donc, qui couvre les deux agglomérations, Lens-Liévin et Hénin-Carvin. On s'était dit, il faut vraiment qu'on passe à une vitesse supérieure pour être visible, pour développer l'ESS et pour accompagner les structures existantes de l'ESS. Alors, quand je dis ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle de cette maison. On a essayé plusieurs fois de contacter les collectivités locales, de contacter un certain nombre d'autres partenaires pour dire comment on pourrait mettre en place cette maison. Mais en tant qu'acteur de l'ESS, à un bout d'un moment, on s'est dit si on finit par attendre toujours les autres pour pouvoir démarrer, on ne fera rien. Et donc, on y va. Et bien, on se prend en charge en tant qu'acteur de l'ESS du territoire. Donc, on s'est mis autour d'une table. On est un certain nombre de structures. J'ai envie de dire 10-15 structures qui sont partenaires de ce projet et qui en sont dit, on y va, on va créer cette maison. Alors, cette maison, elle va voir le jour à Lens et on a voulu tout de suite qu'elle soit en plein centre-ville. Parce que l'ESS, ce n'est pas une économie à part. C'est pas une économie qui... Enfin, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas une économie à part, ce n'est pas une économie qui... voudrait réparer les dégâts que feront d'autres types d'économies. C'est pas une économie qui est là uniquement pour les personnes en difficulté. Elles ont toute leur place, mais il n'y a pas que ça dans la vie. C'est une économie qui veut montrer qu'on peut faire les choses différemment, qui intervient dans tous les domaines. Et en fin de compte, c'est avant tout une autre façon de faire l'économie. C'est-à-dire que c'est contrairement à l'économie classique qui, elle, est basée sur le côté financier et le côté productiviste, nous, on est centré sur une seule chose, l'humain.
Peut-être je t'interromps peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Cette maison, tu en parles un peu au futur, mais elle existe actuellement ?
Alors, la maison, on l'a achetée. D'abord, c'est une chose importante. Les partenaires ont cassé leur tirelire, ont mis de l'argent tous ensemble au pot commun, et on a acheté une maison en plein centre-ville, rue René-Lannoy. Il y a un peu de travaux à faire. Alors, normalement, on avait prévu au départ, quand on a commencé l'achat, à ce que ça s'ouvre maintenant, là, d'ailleurs, en fin d'année. Mais ça a pris beaucoup de retard. Il s'est passé quelque chose cette année. On ne sait pas trop ce qu'il y a. Il y a des petites bêtes qui ont circulé dans le monde. Résultat des courses, on verra le jour qu'en 2021. Alors, entre le printemps et après l'été, je ne sais pas encore dire quand, mais pour l'instant, la maison, elle est en travaux. Et d'ailleurs, comme tout le projet, vous allez le voir tout au long de ce qu'on va raconter sur ce projet, c'est un projet collaboratif. Et donc, tous ceux qui veulent contribuer aux travaux, qui veulent contribuer à la mise en place de cette maison, sont les bienvenus.
Message reçu. Alors, je continue à tirer les fils que tu nous présentes. 10 ans de recul. Tu évoques un petit peu le fait qu'au bout d'un moment, les acteurs se sont pris en charge pour à la fois acheter la maison et puis monter le projet. Qu'est-ce que ça veut dire en filigrane ? Ça veut dire que les interlocuteurs qu'on a sur le territoire, les collectivités, elles connaissent pas bien l'ESS, elles n'en mesurent pas les enjeux. Qu'est-ce que ça reflète ?
Je pense que beaucoup de gens ont une vision de l'ESS tronquée ou une vision partielle de l'ESS. Je disais tout à l'heure, on le voit avant tout comme étant une économie de la réparation, pour réparer les dégâts de l'économie classique, pour prendre en charge les personnes les plus en difficulté, pour prendre en charge un certain nombre de services qui ne sont pas rendus par l'économie classique. Non, c'est pas ça avant tout l'ESS. L'ESS, comme je disais tout à l'heure, c'était une autre façon de faire l'économie. Et donc, on a du mal à faire entendre cette voix-là. On a du mal à faire comprendre ce sens-là de l'ESS. Donc, on s'est adressé aux collectivités, mais tout le monde dit « Oui, c'est génial de vouloir faire une maison de l'ESS, c'est très bien, c'est parfait, c'est quelle bonne idée, etc. » tout ça. Mais encore, derrière, pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. On nous dit « Bah oui, mais... » Vous êtes une association. Ah ben oui, mais comment ça va fonctionner ? C'est quoi l'argent qu'il y a dedans ? Ben, du coup, on s'est dit, nous, puisqu'ils ne nous croient pas, puisqu'ils se posent plus de questions que nous-mêmes par rapport à ce qu'on en est, eh ben, on va leur montrer qu'on est capable de faire. Et donc, je me rappelle un jour une anecdote où je vois un élu et je lui dis, ben, on va acheter une maison. « Ah bon, vous allez acheter une maison ?»« Oui, oui, on va investir 1 million d'euros dans cette maison. » 1 million d'euros ? L'économie sociale et solidaire est capable de mettre 1 million d'euros sur la table. Ah bah oui, 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 c'est la réalité. On est comme le reste de l'économie, on sait gérer, on sait faire les choses. La seule chose, c'est que notre objectif n'est pas de récupérer de l'argent et de placer de l'argent et de rémunérer des actionnaires. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les êtres humains qui travaillent dans l'ESS, et les êtres humains qui bénéficient des services de l'ESS, soient heureux. C'est ça, avant tout, l'ESS.
Et puis c'est aussi peut-être gérer collectivement. Autrement dit, c'est pas seulement le projet d'une personne, d'un gros actionnaire ou d'un fonds de pension, c'est un projet collectif qui fait qu'effectivement, on en arrive à cette capacité à mobiliser 1 million d'euros et puis à monter un tel projet.
Oui, tout à fait. Il y a toute une équipe projet qui a été mise en place. Beaucoup de gens qui se sont impliqués dans le truc. Bon, on a créé une association. Alors aujourd'hui, dans l'association, on est 11 personnes qui font partie de différentes organisations de l'ESS sur le territoire. On a déjà d'autres partenaires. D'ailleurs, dans ce studio, il y a la FEV, qui ne fait pas partie des 11, mais qui est un partenaire privilégié qui a commencé à travailler avec nous sur le projet. Mais il y en a d'autres. Je pourrais parler de la Ligue de l'enseignement. Je pourrais parler de Elfouad. Je pourrais parler de Récuptrice. Il y a d'autres partenaires qui sont en train de nous rejoindre. Je vais pas tous les citer parce que sinon, je vais en oublier et puis ça va pas faire bien. L'enjeu, c'est de dire, on veut construire quelque chose, mais on ne le construit pas. On a une idée, on a des projets, on a des pistes pour les mettre en œuvre, mais travaillons avec les gens et associons le maximum de gens du territoire pour qu'on construise ensemble la maison. on fasse ensemble le projet de cette maison. Ce n'est pas simplement les 11 personnes dont je parlais tout à l'heure qui ont des idées, certes, hein, bien évidemment, mais ce n'est pas eux qui vont tout concevoir, qui vont tout faire, qui vont tout dire comment ça va se passer dans la maison. Cette maison, ça doit être la maison de tous les acteurs de l'ESS.
Alors peut-être par rapport à ce que tu viens de dire, Benoît, je voulais m'adresser à Laurence et à Pierre. Cette idée que dans l'ESS, dans l'économie sociale et solidaire, les acteurs se prennent en charge pour monter des projets, labourer un terrain, c'est pas une idée qui est originale. Je pense qu'à Culture et Liberté, à la Fève, c'est aussi des choses que vous vivez.
Oui, bah, tout à fait. Et c'est là tout le but de rejoindre le toit commun, en fait. C'est qu'il y a une instance de gouvernance qui est partagée, qui est prise en charge. Depuis longtemps, nous, sur le territoire, on travaille avec des jeunes.
Un des meilleurs exemples, c'est qu'on fait l'émission ensemble aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
C'est la première, voilà. Et vous êtes déjà associé avec nous.
Exactement. Donc, même en termes de représentation, on est bien dans cette volonté de partager, de porter ensemble, d'autant plus pour des jeunes qui représentent quand même l'avenir d'un territoire. Et où nous, par exemple, à la FEV, on leur propose de s'engager. Mais au-delà de leur engagement, l'idée, c'est de bien les inclure, en fait, et de leur proposer de pouvoir penser un peu leur territoire, de pouvoir le porter avec d'autres acteurs dans une liaison transversale. Et c'est tout ce que permet le toit commun. À un moment donné, c'est comment on pense les choses ensemble, on les organise, comment on se prend en main, on se responsabilise. Et ça a d'autant plus de valeur. Sans vouloir faire de clichés, mais dans un territoire qui a longtemps paternalisé aussi sa population et qui, à un moment donné, on se doit aussi d'avoir une réflexion sociétale sur comment on implique la jeunesse de ce territoire-là pour qu'elle puisse reprendre possession de son avenir pleinement, en fait. Enfin, et ça, le toit commun le permet.
Alors, pour compléter un petit peu, et puis je pense que vous avez compris déjà que c'est du chant choral, hein, on ne fait pas ça tout seul dans son coin. Et du coup, le toit commun, c'est vraiment l'idée d'un lieu comme un village qui accueillerait chacune et chacun avec l'envie, effectivement, de ne pas être dans la consommation. On parlait d'une autre économie. C'est une économie où l'humain, Benoît l'a dit, est au centre. C'est une économie où chacun, comme l'a dit Pierre, peut être auteur, autrice et acteur et actrice de l'économie de son territoire. Parce que parfois, ça repose sur une envie individuelle, mais parfois, il y a, par exemple, un constat d'un manque. C'est un acteur du territoire, c'est un garage solidaire. C'est-à-dire, pour me déplacer, pour aller travailler, pour pouvoir être autonome dans ma vie, j'ai besoin d'un véhicule. Sauf qu'en ce moment, mes finances, elles ne sont pas tip-top. Donc ce garage solidaire, eh ben, il est là pour justement apporter une réponse. Et c'est une réponse économique, puisque ce garage, c'est son activité. Et il a un chiffre d'affaires à faire, mais on est bien là dans l'utilité sociale, dans le réinvestissement de ce qui est produit, non pas dans l'idée de, une fois de plus, d'exploitation, mais vraiment d'intérêt général et de construire des solidarités, de tisser des dynamiques qui soient réellement positives.
Alors Laurent, je te propose de garder la parole peut-être pour développer qu'est-ce qui sous-tend finalement le toit commun en matière de finalité, en matière de grandes lignes de force. Il y a quoi ? Il y a une charte ? Il y a un descriptif ? Comment ça se passe ?
Alors, non seulement il y a une charte, mais il y a aussi des engagements des utilisateurs du toit commun. Alors, on va peut-être commencer par le début sur les valeurs. Bien évidemment, le toit commun, c'est un lieu de réflexion collectif pour faire une autre et construire une autre économie. Les valeurs, c'est l'humanisme. Les valeurs, c'est une société inclusive. Chacun et chacune compte pour un. C'est aussi un monde sans frontières. Je disais tout à l'heure, moi, la frontière de la langue. Mais il y en a plein de frontières, en fait, dans cette économie où on place l'exploitation et la compétition. Donc forcément, on a intérêt à mettre des barrières un peu partout. Nous, l'idée, c'est vraiment de faire ensemble. La laïcité, les événements qu'on vit en ce moment les uns et les autres, et ce qui se passe dans le monde, j'écoute un peu les informations, comme vous, que les talibans en Afghanistan continuent à aller massacrer dans les universités, c'est pas neutre. Donc la laïcité, c'est la liberté d'expression. On l'a vu avec le professeur Samuel Paty qui a été assassiné. C'est la liberté d'expression qu'on a cherché à assassiner et c'est la laïcité qui est là. Laïcité, ça veut dire aussi liberté d'expression, ça veut dire la liberté de croire, de ne pas croire, de changer d'avis. Et ça, pour nous, dans ce village ne peut être que laïque, bien évidemment. Coopération, c'est pas un gros mot, hein, je vous promets. Et puis c'est efficace en plus, la coopération. La transparence, c'est-à-dire qu'on définit ensemble, puisqu'on est co-auteur, co-autrice et acteur et actrice, forcément, ça doit se faire dans la transparence. Du début du projet jusque dans la façon dont on fait tourner la maison, jusqu'à comment on va faire effectivement pour organiser les différentes communautés. Et puis, on sera attentif à ce qu'on appelle aujourd'hui l'empreinte écologique, parce que on ne peut pas envisager une économie sociale et solidaire, je l'ai dit, lutte contre l'exploitation et contre les rapports de domination. Donc, bien évidemment, une attention à la planète. Donc, un souci permanent du développement durable et de l'écologie et du vivant.
Alors, peut-être une question très directe suite à ce que tu viens d'évoquer. Ces valeurs, en quelque sorte, je reprends un peu ton expression, ces valeurs que tu présentes comme étant celles du toit commun, c'est les valeurs de l'ESS ou c'est les valeurs du toit commun dans l'ESS? Ça veut dire que dans l'ESS, il y a d'autres valeurs Benoît?
Oui, alors, c'est les valeurs du toit commun, avant tout. C'est les valeurs qu'on s'est données collectivement, qu'on a définies collectivement. Parce que l'ESS, c'est un peu, excusez-moi l'expression, c'est un peu un fourre-tout, un peu tarte à la crème. Aujourd'hui, la loi, elle dit, à partir du moment où on est une association, à partir du moment où on dit on est une association, à partir du moment où on dit on est une coopérative, à partir du moment où on dit on est une fondation ou une mutuelle, on est dans l'ESS. Ben, je pense qu'il faut aller regarder un peu plus loin. Parce qu'une association, une mutuelle, une coopérative, quelquefois, il y en a certaines. La démocratie n'est pas forcément toujours là, le fonctionnement n'est pas toujours optimum dans le respect des salariés, etc. etc. Je ne vais pas tout, je vais pas dénoncer. Une grande majorité, oui, mais un certain nombre, non. Donc il faut aller plus loin. Et si on veut vraiment montrer que l'ESS, c'est une autre économie, ben, qu'est-ce qu'on veut promouvoir? Qu'est-ce qu'on veut montrer? Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant à l'ensemble de l'économie? C'est-à-dire que, à la limite, pour moi, on ne devrait pas parler d'ESS. Toute l'économie devrait être de l'économie sociale et solidaire. À la limite, le problème, ce n'est pas l'ESS. Le problème, c'est l'autre économie qui a pour but uniquement le productivisme et la financiarisation. C'est les deux mots aujourd'hui principaux de l'économie classique. Donc aujourd'hui, ramenons les curseurs au sein de l'économie vers l'humain et on va faire de l'ESS pour tout le monde. Et donc, une fois qu'on a dit on est une économie différente, ben donc il faut la définir par des valeurs. Et il faut avoir des exigences sur les fonctionnements, des exigences sur les fonctionnements démocratiques, une exigence sur l'utilité sociale que l'on veut définir, des exigences sur les fonctionnements, la gouvernance qui doit être partagée, et puis la lucrativité qui doit être limitée parce que l'enjeu n'est pas de rémunérer, des actionnaires, mais de faire des résultats, pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir développer, pour pouvoir aller plus loin dans l'économie sociale et solidaire.
Alors, toi, tu ne veux pas dénoncer, mais moi, je n'ai pas ta pudeur. J'ai envie qu'on aille un peu plus loin. Le groupe Vitamine T, 1 milliard d'euros dans la santé, auprès du président Macron qui pousse des politiques néolibérales. C'est ça qu'on veut dénoncer? Monsieur Borrello, adhérent du MEDEF, par ailleurs. Alors, on est contre le MEDEF, comment on se situe?
Excuse-moi, Lucien, mais je n'ai pas envie de dire on est contre qui que ce soit. Moi, je suis contre personne. Je suis pour quelque chose. J'ai envie de construire. J'ai envie de dire aux jeunes de la Fève, voilà où on veut aller. Voilà ce qui est notre cap, notre perspective. passer son temps à dénoncer les autres, etc. Excuse-moi, mais ça ne m'intéresse pas. L'enjeu pour moi, ce qui est important, c'est de convaincre autour de nous que nous avons raison. Et que s'ils veulent développer des projets, s'ils veulent venir avec nous, s'ils veulent faire des choses, eh ben, ils n'ont qu'à respecter les valeurs qu'on promeut et on ira de l'avant. Que les autres ils soient derrière, ben, mon rêve, alors c'est peut-être une utopie, hein, mon rêve, c'est qu'ils vont tomber tout seuls.
Pierre ?
Ouais. Ben, je vais compléter un peu ce que dit Benoît. Je le rejoins un peu quand même. Je le rejoins sacrément, même totalement, sur son intervention. Quand on a des jeunes qui arrivent chez nous, bien souvent dans nos instances de formation ou dans des moments d'animation collective, on a souvent les jeunes qui s'indignent contre les pouvoirs publics. Ça va pas, ça va pas non plus, il faudrait faire ça, il faudrait faire ci. Donc à un moment donné, on est à l'écoute évidemment de ces revendications-là, et c'est la force de la jeunesse de devoir s'indigner. Mais on doit passer une étape supérieure, quoi. Au-delà de l'indignation, il faut mettre les jeunes un petit peu en action, et l'ESS est une réponse un petit peu à ça. Et le toit commun va être l'endroit où, avant de critiquer, alors après critiquer c'est une chose, à partir du moment où c'est constructif et on va de l'avant, mais incarne ta colère en action, quoi. Et un moment, après on en reparlera, et c'est ça qui est justement intéressant. Et c'est là où nous on est bloqués. Pourquoi ? Parce que nous en tant qu'asso, on travaille en couloir, en fait. On a l'habitude de travailler en couloir, alors que le monde est globalisé, qui demande une réponse transversale et des complémentarités entre acteurs pour monter des projets communs. Et c'est ça qui est une énorme force pour la jeunesse, parce qu'à un moment donné, si on monte un projet en commun avec tel acteur, avec Culture et Liberté, avec l'association Vestali qui fait de la réinsertion ou de la récupération, quand on peut permettre à la jeunesse de voir différentes choses au travers... par des projets transversaux qui peuvent eux-mêmes, du coup, gérer et s'impliquer, à un moment donné, ben, on a une force de frappe qui fait qu'on change la société à l'échelle de notre territoire. Et ça, c'est la réponse à leur indignation. Et ça, c'est top.
Et j'ai envie de dire, par rapport à ces jeunes, qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit, voilà, l'économie, voilà ce que vous devez faire. Voilà, vous devez avoir l'économie comme ci, comme ça, etc. Et puis les autres sont mauvais, et puis les autres, nous, on est bons. Non, l'enjeu, c'est qu'il faut construire avec eux.
Tout à fait.
Et l'ESS, c'est aussi une invention permanente. La maison de l'ESS, ça doit être un lieu où on va inventer en permanence. On va inventer d'autres manières de travailler, d'autres manières de coopérer, d'autres manières de gérer les choses, de concevoir des projets, etc. Tout ça, c'est vraiment l'ambition de ce lieu, c'est que ce soit un lieu où ça bouillonne tout le temps, en termes d'idées. Et je pense que pour les jeunes, c'est important qu'on ne définisse pas à leur place comment on doit faire, mais qu'on travaille avec eux à construire l'économie de demain.
Complètement, leur amâcher un peu le travail. Et puis, c'est surtout, à un moment donné, prendre part aux décisions et écouter leurs envies. Parce qu'à chaque fois, quand on essaie de les intégrer ou de leur poser un peu la question d'imaginer ton territoire dans 10, 20 ans, bah, c'est compliqué, en fait, parce qu'ils ont l'impression que les pouvoirs publics bloquent tout et ils ont du mal à prendre part à cette société. Donc, à un moment donné, c'est justement... dans ce point de convergence-là et dans ce lieu-là, qu'on peut mettre en place ça via une nouvelle méthodologie. Moi, je pense l'ESS aussi comme une nouvelle méthodologie d'action, en fait. Et ça peut tout changer à l'échelle d'un territoire donné, évidemment. Il faut aussi bien le penser par rapport à notre capacité d'action dans un territoire donné et non pas globaliser les choses. Et c'est ça qui fait perdre les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ont une vision trop globale, ils ont besoin de se recentrer sur un espace donné, un espace qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Enfin, il faut reconcentrer leur action à l'échelle de leur territoire.
Et je me permets, ce que tu dis sur les jeunes, c'est vrai aussi pour les moins jeunes. et c'est le sens de l'université populaire, de l'économie sociale et solidaire qu'on veut mettre en place. Je voudrais que tu nous en dises deux mots, Laurence. Quand même.
Alors, attends, juste quand même, parce que je vais essayer quand même d'avancer sur ma petite idée. Je vais essayer de trouver dans Laurence un point d'appui quand même. Sur cette question de l'ESS telle qu'elle est, être contre ou pas contre. Alors, Laurence, quand je dis que l'UDES, l'Union des dirigeants de l'économie sociale.
L'Union des employeurs. L'Union
des employeurs de l'économie sociale. Quand je dis que l'UDES, autrement dit, on est dans l'ESS, l'Union des employeurs de l'économie sociale, en 2016, s'aligne sur le patronat contre le droit de grève. Comment tu réagis ?
Alors, heureusement, on n'a pas été les seuls à réagir. On a été un certain nombre d'acteurs à réagir et à, du coup, résister par rapport au discours ambiant qui veut nous faire croire que si on ne reprend pas les couplets de l'économie classique, on ne serait pas sérieux. Et donc, allons-y d'en rajouter un petit refrain et un couplet à la chanson de « Eh ben, cassons le code du travail parce que comme ça, ça ira mieux pour l'économie ». Non, une économie qui ne respecte pas les travailleurs et les travailleuses, c'est une économie qui va dans le mur. Les forces vives, elles sont là auprès des gens qui mettent au service de l'économie leur savoir-faire et ce qu'ils ont appris. Donc oui, c'est aussi un lieu de résistance. Je pense que déjà, l'ensemble des propos que vous avez pu déjà capter depuis le début de cette émission, quand on dit qu'on a envie, effectivement, cette maison, elle va être organisée en communauté. On avait l'idée d'une université populaire de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi placer une communauté de ce type dans un projet d'économie? On pourrait dire finalement, qu'est-ce qu'une université populaire va avoir à voir avec de l'économie et comment ça va pouvoir dynamiser un territoire? Ben, ça a tout à voir, au contraire. C'est déjà réfléchir au sens et à la valeur de ce qu'on a envie de valoriser quand on fait un projet qui a une vocation économique. Et l'université populaire, c'est surtout un outil qu'on essaiera de mettre en place pour que cette économie sociale et solidaire, ce ne soit pas simplement une économie, alors on a parlé tout à l'heure d'une économie de niche, mais que ce ne soit pas non plus réduit et caricaturé à « oh ben c'est pour les bobos ». C'est pour les catégories socio-professionnelles favorisées, très favorisées. C'est pour certaines catégories de population, finalement. Mais ce ne serait certainement pas pour toutes et tous. Moi, je peux vous dire que quand on fait du français, qu'on travaille sur consommer, les gens qui sont, les personnes, ce sont des adultes qui sont là pour apprendre du français, ils sont eux aussi demandeurs de consommer autrement, de consommer avec des produits qui soient du circuit court, qui soient bons pour leur santé, qu'ils sachent comment le produit a été produit, est-ce que le producteur il arrive à en vivre. Aujourd'hui, quand on sait que dans le monde, 75% des gens qui aujourd'hui souffrent de la faim sont des agriculteurs et des agricultrices. Incroyable! Et on veut nous faire croire que c'est cette économie-là et que c'est les valeurs de cette économie-là qu'il faudrait soutenir. Donc effectivement, résidence, quand l'UDES va soutenir le MEDEF, main dans la main, pour la casse du code du travail.
Alors, on va revenir au toit commun. Tu parlais de cette communauté. Comment ça fonctionne? C'est ouvert à qui? Comment ça se passe?
Alors, on parlait de l'association dans l'histoire de ce projet. Il y a donc une association. Pour acheter cette maison, il y a une société civile immobilière, parce que les cadres juridiques nous contraignent à ce cadre-là. Et puis, par contre, pour le fonctionnement des communautés et de la maison du toit commun, ce sera une société coopérative d'intérêt collectif. On revient encore sur cette énergie des intelligences collectives et du faire ensemble. Alors, pour le moment, on a, entre guillemets, imaginé qu'il nous faudrait donc une communauté université populaire de l'économie sociale et solidaire, comme il nous faudrait une communauté de magasins partagés, comme il nous faudra une communauté d'accompagnement des projets, aussi d'accompagnement associatif, une communauté jeunesse, Pierre en a parlé, et puis une communauté développement durable. Voilà un petit peu ce qu'on avait un petit peu quand on a déjà partagé ensemble, imaginer comment on pourrait faire de l'économie autrement. Voilà les bases. Pour ces communautés, quand elles viennent et quand les personnes viennent, il y a aussi la demande de se reconnaître dans la charte et dans les valeurs qui sont portées par le toit commun. Après, ce n'est pas fermé, bien évidemment, puisqu'on est dans l'idée de co-construire et de co-écrire. Là, vous avez en quelque sorte une base de départ, mais en aucun cas un carcan qui serait décidé par, entre guillemets, les mères et les pères fondateurs et fondatrices et qu'on ne pourrait pas faire évoluer. C'est surtout pas ça, c'est vivant, c'est du mouvement, c'est de l'envie, du dynamisme, à certains moments de la révolte, à d'autres des grands moments de joie. Et c'est ces dynamiques-là qu'on a envie de voir faire le commun de nos communautés.
Alors justement, tu parles de magasins partagés, tu parles d'initiatives université populaire. Benoît, on a envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce lieu? C'est quoi le toit commun au quotidien, en quelque sorte?
Alors, le toit commun... qu'est-ce qu'il va y avoir dans la maison, comment ça va fonctionner? Il va y avoir plusieurs choses. D'abord cette maison, puisqu'on en parle tout à l'heure, c'est quand même un bâtiment de 1000 mètres carrés. C'est pas le petit machin tout coin, dans un coin de rue à Lens. Et vous allez voir tout de suite, avec tous les projets qu'on a et tous les partenaires qu'on a, 1000 mètres carrés, ça va déjà pas être assez. Mais bref, donc dans cette maison, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura Trois grandes choses. Il y aura tout d'abord des structures, tout simplement, qui vont venir s'installer là, qui vont venir développer leurs propres activités en tant que structure, de manière autonome, mais reliées aux autres. On parlait de la FEF tout à l'heure. La FEF va venir s'installer dès que la maison sera ouverte dedans. Dans les acteurs que je connais moi personnellement, il y a un acteur qui s'appelle Partenaire Intérim, qui est là, qui a investi, fait partie de ceux qui ont investi dans le projet d'achat de cette maison. Le Partenaire Intérim va déménager son siège et va venir s'installer. Partenaire Intérim, une entreprise de travail temporaire d'insertion. Donc ça, c'est des structures qui sont hébergées, qui vont être là et qui vont mettre en commun les services, bien sûr, communs à leur fonctionnement.
Ça, c'est la première chose. Moi, une ruche d'entreprise de l'économie solidaire, quoi.
Oui, ou un hôtel d'entreprise. Un hôtel d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. La ruche, ce sera le troisième volet.
Je te laisse continuer.
Le deuxième volet, ça va être un lieu d'animation. Alors, un lieu d'animation, c'est-à-dire un lieu où tous les jours, je dis bien tous les jours, il va se passer quelque chose. Alors, il y aura bien sûr un lieu convivial avec un bar, un restaurant. Mais il y aura des salles de réunion.
Attention aux gestes barrières.
Ah oui, tout. Tout est prévu là-dessus aussi. Bien sûr, le jour, on ne va pas ouvrir le restaurant si c'est interdit d'ouvrir les restaurants, bien évidemment. Mais bref, il y aura un bar, un restaurant, il y aura des salles de réunion, il y aura la possibilité de pour les associations du territoire de venir là, de développer des activités. Il y aura la possibilité de faire des débats, de faire des conférences, de faire des animations, enfin, etc., dans le cadre de l'université populaire dont on parlait tout à l'heure, des formations aussi, etc. Voilà, plein de choses qui vont se passer. Et puis, il y aura un magasin partagé, c'est-à-dire, c'est quoi un magasin partagé? C'est un endroit où des partenaires de l'ESS du territoire qui produisent des choses pourront venir les amener là et seront en vente. Et puis on est allé un petit peu plus loin, on a eu une idée un petit peu originale. Je vous ai parlé qu'il allait y avoir un bar, un restaurant. Donc bien sûr, il y aura des tables et des chaises, il y aura des assiettes, il y aura des verres, il y aura des couverts, tout ce qu'il faut pour fonctionner. Et bien tout ça, ce sera de la récupération, et puis ce sera à vendre. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez venir manger quelque chose, boire une petite bière, hein, mais aussi acheter le verre, l'assiette, la table, la chaise, la fourchette, et je ne sais quoi.
C'est pratique pour la vaisselle, en tout cas.
Ah, bien sûr, non, on les lavera avant de vous les donner, bien évidemment. Mais on réapprovisionnera dans le cadre du restaurant. Voilà, ça c'est le deuxième volet. Un lieu d'animation, il va se passer plein de choses. Et puis le troisième volet, c'est la ruche dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est un endroit où on va dire... des jeunes, des moins jeunes, etc., ils ont des idées, ils ont des projets, ils ont envie de faire quelque chose dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, ils ont envie de développer quelque chose. Eh bien, mettons-nous toute la logistique, toute les moyens qui vont leur permettre d'être accompagnés, qui vont leur permettre de bien réaliser leur projet, de bien construire leur projet. Ça veut dire quoi? Il va y avoir ce qu'on appelle des espaces de travail partagés. Alors, les gens ils connaissent ça plus souvent sous la forme d'un anglicisme qu'on n'aime pas beaucoup, nous, qui s'appelle le coworking, mais tout simplement, disons, espace de travail partagé. Ça me paraît bien plus clair pour tout le monde. Des espaces de travail partagés. Il va y avoir des ressources, il va y avoir de la documentation, il va y avoir des partenaires qui vont être là aussi pour aider les gens et pour leur dire ben voilà, comment on peut faire, comment on peut construire, comment on peut travailler, etc. Tout ça. Voilà. Donc les trois volets, l'hébergement, l'animation et la ruche pour le développement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Ça, ça va être le concret de cette maison. Alors, dernière chose que je voulais dire quand même, pour être très transparent et très clair, donc on va l'ouvrir en 2021. Quand, j'en sais rien, je le disais tout à l'heure, hein, mais en tous les cas, en 2021, on va l'ouvrir. Mais on va l'ouvrir que sur une partie de notre maison. Et il y aura une deuxième étape en 2022 ou en 2023. On verra bien après. C'est pas, tout prend un petit peu de retard avec cette histoire de crise sanitaire. En 2022 ou en 2023, il y aura une deuxième étape où on agrandira la maison. On ira plus loin. Mais déjà, dès 2021, il va se passer des choses. Et puis, j'ai envie de dire, dès maintenant, il se passe des choses. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez, si là on fait une première avec cette émission de radio, mais j'espère qu'il y en aura plein d'autres, il y aura d'autres acteurs qui vont venir discuter avec nous, débattre avec nous, parce que tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, ça se débat, après tout, c'est des idées qu'on a, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'aller plus loin, vous avez le droit d'aller moins loin, mais encore faut-il en discuter.
Alors je rebondis sur ce que tu dis, tout simplement pour des informations de pratico-pratique, hein. Donc contact, il y a un site internet, hein. Qui est en construction. Pour l'instant, c'est une page temporaire, letoitcommun.org. Et puis, pour contacter les animateurs, les fondateurs, en quelque sorte, de ce beau projet, contact@letoitcommun.org. Alors, tu nous traces quelques perspectives, hein, Benoît. J'avais envie, Pierre, de parler perspectives, justement. Mm-hmm. Comment tu te vois, toi, et tu vois la fève quand le Toit Commun démarrera
Très bonne question. Je vais reprendre, je vais m'appuyer un peu sur ce que Benoît était en train de dire sur les trois piliers un petit peu de comment va être régi un petit peu le Toit Commun. D'abord, au niveau de la fève, nous, c'est un nouvel espace. C'est un nouvel espace qu'on va occuper avec le Toit Commun. Un espace tout neuf qui va nous permettre non seulement d'asseoir nos projets, mais ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est ce que j'avançais tout à l'heure, c'est de ne pas travailler en couloir. On a longtemps été dans un local, rue Séraphin Cordier, qui ressemble plus à un bunker qu'autre chose. Et du coup, ça va nous faire extrêmement du bien d'être dans un lieu où on va pouvoir avoir de la transversalité entre les acteurs, parce qu'on sait très bien que dans ce genre de lieu, il y a plusieurs acteurs qui sont présents, qui représentent des domaines d'activité différents. Et tout l'idée, c'est d'avoir des croisements et de pouvoir mettre en place des projets ensemble. Donc déjà, nous, ça va changer notre philosophie de travail. Le lieu va conditionner notre activité parce qu'au rez-de-chaussée, on aura un espace, ce qu'a dit Benoît, un bar plus un restaurant. Donc c'est comment, au-delà de notre activité, on a des temps aussi et des moments où on fait fonctionner le lieu en commun. Donc nous, avec notre public de jeunes qui est déjà engagé dans des actions, c'est comment ils vont utiliser les lieux pour leurs actions. Donc concrètement, nous, on accompagne des jeunes en difficulté scolaire. C'est comment des accompagnements ne peuvent pas se mettre en place directement au Toit Commun. C'est comment on va utiliser les espaces en tant qu'espace hybride de formation. C'est comment nos volontaires ou nos bénévoles vont pouvoir animer aussi le bar associatif. Là, on est là où justement nos bénévoles ont besoin d'être conscientisés aussi sur une nouvelle utilisation d'un lieu, en fait, parce que utiliser un lieu, c'est aussi avoir une responsabilité commune et c'est aussi pouvoir le gérer entre nous. Donc ça, c'est super top parce que ça va leur permettre aussi de voir autre chose de comment on gère un lieu en termes de prise en main. Et au-delà de ça, au-delà de l'utilisation des lieux, il y a surtout des projets qui vont émerger. Et on a déjà quelques petits traceurs qu'on a évoqués déjà avec Benoît, mais... L'idée pour nous, c'est de pouvoir monter des projets avec d'autres acteurs, mais aussi de faire venir la jeunesse dans ces lieux, leur faire découvrir ce qu'est l'ESS, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, il y a une méconnaissance pour beaucoup de jeunes de ce qu'est l'ESS. Donc la première des choses, ça sera quand même de devoir un petit peu vulgariser ça et de leur montrer à quoi ça ressemble concrètement, en fait, par des projets, encore une fois, en évitant peut-être un peu le blabla. Alors après, adhérer aux valeurs, c'est une chose, et ça sera la première des choses, mais au-delà de ça, il va falloir que ça s'incarne en action, et ça va tout être là, notre but du coup de proposer des actions concrètes qui vont illustrer ce qu'est l'ESS avec nos jeunes qui sont déjà engagés, mais pas que. La FEV aussi accompagne des collégiens et des lycéens sur un ensemble de questionnements qui facilitent leur épanouissement scolaire. Et c'est comment on va faciliter du coup des allers-retours entre nos établissements scolaires et le toit commun. C'est comment aussi des jeunes collégiens peuvent venir voir à quoi ressemble le toit commun. C'est quoi comme espace? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on monte comme projet? Parce que c'est pareil, animer un atelier sur l'ESS, c'est, enfin, je veux dire, on peut parler de tout et de rien. C'est ce que disait Benoît, c'est un peu un fourre-tout. Donc à un moment donné, c'est comment on va faciliter des allers-retours entre les publics et comment on va coporter des projets qui vont faire sens sur le territoire. Donc voilà comment on l'imagine. Mais concrètement, par exemple, pour donner un exemple, il y a la semaine de l'ESS qui va arriver à un moment, je ne sais plus exactement ce qui arrive au mois de mars. La semaine de l'ESS arrive au mois de mars. Donc à un moment donné, c'est comment sur cette semaine de l'ESS, on peut monter des ateliers au sein du toit commun, faire venir des collégiens, comment le toit commun se déplace sur l'établissement scolaire et porte des ateliers avec les collégiens en lien avec nos bénévoles et engagés. Donc voilà, c'est ce croisement un peu hybride qui est intéressant et qui permet de faire des allers-retours sur le territoire.
Ce que tu dis, c'est que les acteurs de l'ESS, finalement, sont d'abord des praticiens.
Oui, bah, tout à fait. Il faut que ce soit concret, en fait. Il faut que ça soit représenté par des actions. En tout cas, nous, on le voit comme ça. Et évidemment, ça, c'était la deuxième partie. Mais tout le but aussi, c'est de pouvoir penser d'autres types de projets et de voir comment la FEV a sa place dans une communauté, par exemple la communauté jeunesse qui va se réunir. Bah, c'est des projets que la FEV va proposer, mais c'est aussi comment la FEV va soutenir d'autres projets et comment on va s'intégrer dans le projet des autres. Et c'est là tout le but aussi.
Bon, ben je crois que pour une première émission, on a quand même posé quelques bases hein, sur à la fois l'économie sociale et solidaire et le toit commun. Je vais juste vous proposer de conclure, alors conclusion sans doute provisoire, hein, en vous donnant chacun et chacune la parole pour terminer. Laurence.
Quoi vous dire pour ce premier, finalement, premier épisode d'une saga qui va partir pour nombreuses années, parce que c'est, moi j'ai envie de dire ça, une saga qui serait composée d'un milliard de petites nouvelles portées et écrites par plein de mains et de têtes différentes. Et c'est cette idée, moi j'ai envie de partager avec vous à ce moment-là de l'émission, de comment, avec nos différentes organisations, on va donner envie à chacun et chacune dans ce territoire de s'investir dans une économie qui fait du bien à soi-même, à sa collectivité et aussi à sa planète. Voilà, ça, c'est une première étape.
Pierre, ton dernier mot pour aujourd'hui.
Pour aujourd'hui. Moi, j'aime bien, avant même de questionner ce qu'est l'ESS, j'aime bien le principe de ce que... Alors, je parle beaucoup de Benoît, hein, enfin, je m'appuie beaucoup sur lui.
Il y a un culte de la personnalité au toit commun ?
Un petit peu, hein, c'est un peu... Non, quand même. Non, mais j'aime bien cette définition-là de bien se sentir, d'être heureux au départ. On en a cruellement besoin dans ce monde-ci, dans la période qu'on traverse. Donc, à un moment donné... Pour être heureux, il faut être en capacité de pouvoir faire des choix dans sa vie. Et j'aime l'idée que l'ESS puisse permettre de conscientiser certains aspects du coup, qui permettent du coup, à des jeunes de reprendre le pouvoir sur leur vie en l'incarnant vraiment en action avec d'autres personnes autour de la table issues d'une très large diversité. Parce que ça, c'est ce qui nous manque cruellement, avoir une diversité représentative et qui apprend à travailler ensemble. Parce que le vivre ensemble, c'est bien beau, mais c'est un grand fourre-tout aussi. À un moment donné, vivre ensemble, c'est pas forcément simple. Et ça s'organise et ça se pense. Et j'attends de l'ESS qu'elle soit un peu à la croisée de ses chemins pour qu'elle permette de nous rendre tous et toutes heureux. Alors après, c'est une belle utopie, mais je pense qu'on en a besoin aussi, quoi.
Enfin... Optimiste, hein.
Ouais. Voilà. Ouais, bien sûr.
Allez, Benoît.
Alors, moi, d'abord, il n'y a certainement pas de culte de la personnalité au sein du toit commun. Si c'est le cas, merci de le dénoncer fortement. Bref, ce que j'ai envie de dire, c'est que le toit commun, la maison de l'ESS, ce sera ce que les acteurs de l'ESS. Tous ceux qui s'intéressent à l'ESS, tous ceux qui ont envie de faire des choses dans le cadre de l'ESS, la maison sera ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils feront. Ce n'est pas nous qui allons décider qu'est-ce que sera la maison, c'est tout un chacun qui va y participer et qui va construire les choses. Donc, pour terminer, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est un appel. Rejoignez-nous. Venez. Viendez, comme on dit chez nous. Venez partager avec nous. Venez construire avec nous. Venez faire des projets. Venez donner un petit peu votre temps dans les travaux, demain dans la tenue du bar, demain dans la tenue du magasin partagé, demain dans un débat qu'on va construire pour dire comment on fait, comment on travaille sur les jeunes. Et j'ai envie de lancer un autre défi. C'est que là, on a fait notre première émission aujourd'hui. J'ai envie de donner un thème pour la deuxième. Proposer un thème pour la deuxième.
Mais vas-y.
Un thème qui n'est pas facile. C'est de dire en quoi on est concerné par le développement durable dans l'ESS. En quoi on est concerné dans on dit que la maison, ça va être un lieu où on va faire attention au développement durable. On va faire attention à ce que demain sera l'écologie, ce que sera notre planète. Eh bien, comment on fait en sorte que cette maison, ce soit aussi un lieu où on travaille là-dessus, on réfléchit là-dessus? Eh bien, commençons par une émission sur ce sujet.
Très bien. Et puis ça me fait penser aussi à une note de tes interventions où je relis un petit peu cette thématique. Tu parlais d'une économie productiviste. Il y a peut-être aussi à gratter dans ce domaine-là sur la thématique que tu proposes.
Et toi, ton mot de conclusion, Lucien?
Ben, première émission, pour moi, c'est un réel... succès, parce qu'on a posé quand même pas mal de thématiques qui nous donnent plein d'idées pour la suite. Je pense que la prochaine émission, donc ce sera sur le développement durable ou ce sera sur une organisation qui est partie prenante dans le toit commun. Là, on en discutera. En tout cas, beaucoup de bases ont été posées. Et puis, je rappelle l'adresse de contact hein, pour nous contacter. contact@letoitcommun.org. Il y aura bientôt une liste d'informations. On vous tiendra au courant sur cette antenne et sur le site internet du projet. Merci à toutes et à tous. Merci Pierre, merci Laurence, merci Benoît.
Merci Lucien.
Merci Lucien.
Merci Lucien.
Bye bye.
Merci à Micro Rebelle.